Voilà. Eh bien, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Daniel en fréquence pour une petite heure que nous allons passer ensemble. Notre technicien est venu un peu à ma rescousse. Voilà, c'est bon. Ça y est, l'émission est lancée. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, article 25, à l'origine, c'est du social, donc nous allons parler social. Et faire un point donc sur notre sécurité sociale. Cette émission sera basée principalement sur la sécurité sociale et sur un peu les arcs argiques si j'ai assez de temps devant moi. Voilà, la sécurité sociale, eh bien, il y a des enjeux. Enjeux pour du XXe siècle, enjeux et propositions. Ces propositions-là ont été faites par la CGT. De 1945 à aujourd'hui, le projet de la Sécu, un projet de progrès social de la CGT, pardon. Donc, repères historiques, etc. Bon, en fait, ce sont des fiches que l'on m'a remises, donc je les passerai au fur et à mesure. Mais une petite mise en bouche, comme on peut dire. Système de cité, de santé, voilà. Notre système donc de sécurité sociale est le fruit donc d'affrontements de classes caractérisés par les luttes sociales. Bon, ça tout le monde le sait, et politiques dans lesquelles la CGT a été une actrice incontournable. Bon, s'il est évident que la sécurité sociale ne pouvait s'établir sans tenir compte de l'existant, sa conception fondamentalement différente a profondément bouleversé l'approche du problème de protection ouvrière. Une œuvre ouvrière, effectivement, la sécurité sociale est une œuvre ouvrière. Si l'idée d'une protection sociale des travailleurs et de leurs amis émerge après 1789, avec la révolution dite industrielle, qui nous a pas rangé d'ailleurs, que les aspirations sont transformées en nécessité vitale. Jusqu'alors, sans travail, pas de revenus, le seul soutien pour les invalides, blessés, malades ou personnes âgées était assuré par des œuvres de charité, donc de l'Église. À la charité aléatoire se substituent peu à peu des dispositifs de solidarité organisés par les ouvriers eux-mêmes. C'est grâce à la prise de conscience de ces intérêts communs que la classe ouvrière va commencer à s'organiser et opter pour la solidarité afin de répondre aux besoins de protection des travailleurs et leurs familles. Bon, par la suite, elle va ériger les premiers dispositifs de protection sociale. Et ici, dans la première moitié du XIXe siècle, les créations des mutuelles se multiplient et dispensent une couverture de risque. Dans le même temps, le droit à la retraite en fonction du salaire reconnu aux fonctionnaires, aux mineurs, aux cheminots. Ce sont des régimes pionniers. Comme l'explique un certain Michel Pigeonnier, qui je crois était professeur d'histoire, mais je ne suis pas trop sûr. Professeur d'histoire contemporaine. Spécialiste du travail et des mouvements sociaux, inquiet de ce qui prend forme, les patrons des grandes entreprises qui se heurtent ainsi à la naissance du syndicalisme, la CGT est créée en 1895. Développe leur propre œuvre sociale dans le cadre du patronage, avec la perspective d'intégrer les travailleurs aux logiques et aux impératifs du capitalisme. Mise en place d'une protection sociale assurantielle. La loi de 1910 institue les premières retraites ouvrières et paysannes obligatoires. Ce système théoriquement obligatoire, fondé sur le principe de la capitalisation, ne garantit que de faibles prestations. Bon, il est d'ailleurs combattu par la CGT, qui le nomme retraité des morts. Car il n'ouvre droit à une pension de retraite qu'à partir de 65 ans. Donc, il n'y avait donc pratiquement pas de retraite et pratiquement pas de salaire non plus. La loi de 1928 instaure le système d'assurance sociale, mais celle-ci sera empêchée d'application par les patrons jusqu'en 1930. Bon, ces assurances organisent une couverture pour la maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse et le décès. Seuls les salariés dont le salaire est inférieur à un plafond sont reconnus comme assurés. Bon, dans le domaine de la famille, certains patrons adeptes de la doctrine sociale, donc de l'Église, seront à l'origine des allocations familiales. Dès 1880. Et dès 1880, quelques entreprises ainsi que la fonction publique versent des suppléments familiaux. Les lois de 1932 et 1938 généraliseront cette politique familiale et prendront un caractère général, dont l'objectif est d'impacter le taux de natalité. Quelques années plus tard, le gouvernement de Vichy les utilisera pour envoyer les femmes au foyer. Donc les femmes n'avaient plus la parole. Ils ne l'ont jamais eu d'ailleurs à cette époque-là. Bon, si au début des années 1940, un système de protection sociale y est en place, celui-ci n'est ni obligatoire, ni général, ni assurantiel. Je précise que nous étions quand même en occupation. Hein. Bon. La naissance de la sécurité sociale, bien sûr, c'est dans les combats contre l'occupant nazi, les tenants de la collaboration, que s'élabore en France l'idée d'un changement novateur. Des mécanismes de protection sociale, l'exigence de progrès sociaux et démocratiques, allant de pair avec la volonté d'indépendance nationale. Le programme Conseil national de la résistance, CNR, reflète un consensus forgé dans la lutte par la résistance autour de la nation et de la République. Ainsi, en 1943, toujours en guerre, le SNR élabore des mesures à mettre en œuvre à la libération. 39-45, encore deux ans de guerre. La libération intitulée « Les jours heureux », le texte « Véritable déclaration de droits nouveaux » servira de feuille de route pour mettre en route en place de grandes réformes, dont un plan complet de la sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intérêts de l'État, la philosophie du projet était de vivre sans l'angoisse du lendemain, de la maladie ou de l'accident du travail, en cotisant selon les moyens et en recevant selon ses besoins. Donc, en cotisant moins et avoir des soins de haute qualité. Voilà. À l'Assemblée consultative provisoire de Antoine Broza, qui était secrétaire général de la Fédération CGT des métaux et député du PCF, préside de la commission du travail à l'origine des deux ordonnances fondatrices. C'est Georges Buisson, secrétaire de la CGT, qui présente le rapport pour avis en juillet 1945. À l'Assemblée nationale, en octobre de la même année, le plan de la sécurité sociale est adopté, mais le combat n'est pas encore gagné, il ne fait que commencer. Le poids donc du syndicat CGT dans la mise en place de la sécurité sociale. Avec la sécurité sociale, la protection sociale devient un droit fondamental et non plus un mécanisme d'assurance pour couvrir un risque. Son financement repose sur les cotisations des salariés et les caisses sont gérées par les travailleurs par l'intermédiaire de leur syndicat, ce qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui, à ma connaissance. Bon, cette transformation fondamentale du système de protection sociale est tout de suite combattue pour le syndicat patronal rebaptisé Conseil national du patronat français, le fameux CNPF. Bon, la sécurité sociale met en danger l'économie du pays. Il veut surtout en écarter les accidents du travail, les maladies dites professionnelles, les compagnies d'assurance qui ont beaucoup à perdre, etc., etc., etc. sont aussi à l'offensive. Ainsi, les défenseurs les plus actifs du nouveau plan de sécurité sociale seront sans nul doute les militants de la CGT aux côtés d'Ambroise Croizat et Georges Buisson. Ils se forceront de mettre en place les premières caisses primaires dans les territoires en France, bien sûr. Conçu initialement comme un système unique et unifiant destiné à l'ensemble de la population, la sécurité sociale peine toutefois à prendre en compte les professions indépendantes du monde agricole qui s'y opposent. De plus, les régimes dits spéciaux mines fonctionnaires conserveront leur autonomie pour le dirigeant syndical Henri Reynaud, qui était un bon dirigeant syndical. Le problème de la rentrée des fonctionnaires de la sécurité sociale se pose très simplement. Il s'agit d'accord de fonctionnaires les avantages de la sécurité sociale dont ils étaient privés sans leur retirer aucun des avantages de leur statut. C'est net et sans bavure. Aucun des avantages acquis ne peut être menacé. Explique-t-on lors du discours d'ouverture du CCN de janvier 1947. Donc, trois ans après la guerre. Voilà, c'était un petit rapport sur notre sécurité sociale. Il est 14h12, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission. Allez, un peu de musique. Voilà, je reprends le cours de l'émission. Objet de lutte. Effectivement, la sécurité sociale a été un objet de lutte et un objet de lutte âpre. Comme je l'ai dit il y a un petit moment là, le patronat n'a jamais voulu cette naissance. Bon, objet de lutte parce que donc le patronat désarme jamais. Alors on parle de conquis sociaux. Il faut savoir que les acquis sociaux se font au prix des luttes sociales. Voilà. Bon, quant aux acquis, eh bien, les acquis sont les acquis qu'on a pu donc obtenir donc dans les années passées. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe, avec la politique donc actuelle, tous nos acquis, petit à petit, prennent, comme on pourrait dire, la poudre d'escampette. Enfin bref. Alors parce que le patronat de Désarme Jamais, Ambroise Croizat, au cours de la deuxième année du XXe siècle, à défense de la sécurité sociale, a fait l'objet de nombreuses luttes. La première grande victoire patronale a eu lieu en août 1967, avec le démantèlement du régime général de la sécurité sociale et la création des trois caisses distinctes, maladie, vieillesse, famille, bénéficiant de ressources propres. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait office donc d'organisme unifiant en assurant la gestion de la trésorerie des trois organismes. De plus, la réforme de 1967 a supprimé les élections au conseil d'administration et a introduit le paritarisme de l'organisation patronale. Voilà. Donc les patrons étaient toujours, que ça s'appelle, à l'affût. L'organisation patronale dispose alors de la moitié des sièges. Les 50% restants étant partagés entre les organisations syndicales représentatives des salariés, l'élection démocratique des administrateurs est aussi supprimée pour laisser place à la désignation, bien sûr. Ce recul premier est le point de départ d'une longue contre-offensive méthodique et acharnée contre les droits à la sécurité sociale, avec pour fil rouge la remise en question de son financement par la cotisation à travers les exonérations des cotisations massives, le financement donc par l'impôt, avec l'introduction en 1991 de la contribution sociale généralisée CSG. Bon, à cela s'ajoute la bataille pour une diminution des prestations à travers la mise en place des lois de financement de la sécurité sociale. Celles-ci s'inscrivent dans une logique d'adaptation des prestations au financement et n'ont besoin de réforme de 1996, le plan Juppé. Malgré les remises en question régulières de la part de nos gouvernements sous l'impulsion du patronat, une fois encore, la sécurité sociale a montré son rôle capital d'amortisseur social durant la crise sanitaire, économique et sociale. Parce que faire aux attaques et aux reculs successifs, la résistance ne peut suffire. Bon, la CGT s'engage résolument à redynamiser le système pour développer et le porter au niveau des exigences et des besoins actuels. Ainsi, pour la CGT, la sécurité sociale doit être aussi professionnelle, c'est-à-dire protectrice à tous les moments de la vie, de la naissance jusqu'au décès, ce qui impose un financement solidaire et une autre répartition des richesses, ce que les patronats n'ont jamais voulu. La cotisation sociale doit être remise au cœur du financement et gérée par les travailleurs et travailleuses, selon le principe cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Bon, elle s'appuie sur les principes fondateurs de la Sécu, que sont la solidarité et l'universalité, et vise à partir de ces principes à répondre aux besoins des personnels, quel que soit leur âge ou leur situation professionnelle. Et bien entendu, en intégrant de nouveaux besoins non encore couverts concernant les régimes spéciaux. Issus du secteur public ou assimilés, la CGT exige leur maintien et leur renforcement. Il s'agit d'imaginer la sécurité sociale du XXIe siècle. La CGT décide d'engager la bataille revendicative pour conquérir une sécurité sociale intégrale, un 100% sécu sur la base du salaire socialisé. Cette sécurité sociale intégrale doit être fondée sur le principe d'un système simplifié, clair et accessible. C'est pourquoi la sécurité sociale doit devenir interlocutrice, collectrice et payeuse unique. Elle doit être autonome grâce au retour des élections des administrateurs de la sécurité, par les assurés sociaux et grâce à un budget décidé exclusivement par les salariés. Pour cela, nous devons transformer la CSG en cotisation sociale renforcée. Le financement de la sécurité sociale en crée une contribution sociale sur tous les revenus financiers dividendes. Intérêt, il faut supprimer la journée de travail gratuite. Les exonérations de cotisations sociales et augmenter les cotisations patronales, ces propositions s'inscrivent dans la perspective d'un système plus juste et égalitaire, où les richesses créées par le travail doivent être au service de l'intérêt général, d'un collectif et de la réponse aux besoins sociaux de toutes et tous. Pour les syndicats, la reconquête de la sécu, c'est permettre à chacun et à chacune de faire face selon ses besoins à tous les événements où il y a de la vie, de la naissance ou au décès. Quel que soit son statut d'emploi, sa durée de cotisation, nous devons défendre l'unité, l'universalité, l'indépendance de la sécurité sociale. Ces propositions revendicatives posent une série de questions pour parvenir à une sécu à 100%. Sur l'ensemble des branches de la sécurité sociale, elles s'inscrivent dans la perspective d'un système plus juste et égalitaire, où les richesses créées par le travail doivent être au service de l'intérêt dit général, d'un collectif et de la réponse aux besoins sociaux de toutes et tous. La proposition de la CGT propose une reconquête de la sécurité sociale pour que cette reconquête ne reste pas à l'écart du slogan. Elle doit s'incarner dans les proportions précises. C'est l'objet de la campagne confédérale pour partager au maximum les propositions de la CGT et les enrichir à partir de l'expérience de chacun. Voilà. C'est écrit, c'est dit, date de 2018, voilà. Allez, un peu de musique et je reprends l'émission.
Padrone, Radio Galère 88.4 FM 04 91 08 28 10.
J'ai apporté ça. Vous croyez que ça facilitera le contact?
Une cassette? Pourquoi faire?
Vous savez, c'est de la musique démoniaque. Cette cassette peut favoriser l'invocation.
Ah, tout le monde sait ça.
Il y a même certains disques qui doivent s'écouter à l'envers.
Bien, faites ce que vous voulez. On a tout, non? Hein? Couteau, pain, LSD, sans pucelle. Nous allons commencer, si vous voulez bien.
Mardi Namouk. Tous les deuxièmes mardis du mois, 20h-21h, sur Radio Galère, 88.4 FM, et Canal
Je reprends le cours de l'émission. Je m'excuse, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai parlé de fiches, donc fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, etc. etc., etc. Fiche. L'accompagnement aux soins, un accès à la santé pour tous. Avec le zéro, avec le reste à charge zéro. Pour les soins dentaires, auditifs et optiques mis en place par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, le gouvernement impose de manière unilatérale un effort au complémentaire pour financer des gammes low cost de lunettes, d'appareils auditifs, de prothèses dentaires, etc. etc., etc. Bon, cette mesure a eu pour conséquence l'augmentation des cotisations mutuelles de 5% en 2018. Hein, maintenant, c'est beaucoup plus cher. Concédant un point au gouvernement, il vaut mieux avoir des lunettes, même low cost, que pas de lunettes du tout. Mais voilà. Mais posons tout de même à la question de la qualité. Cette mesure ne remet pas en question les accords passés avec les professionnels de santé. Que si leur impose de proposer une gamme RAC 0, et laissant pratiquer les prix qu'ils veulent pour le reste des équipements, laissant ouvrir la voie aux abus. Une audioprothèse produite en Chine ou importée donc en France, et importée en France, pardon, coûte 350 euros. Enfin bref, ce sont des tarifs vraiment qui s'appellent. Qui ne tiennent pas debout. Quoi. Bon, on retrouve à des prix allant donc, pour les prothèses produites en Chine, donc on la retrouve à un prix allant de 1200 à 1500 euros chez l'audioprothésiste, de même les chirurgiens dentaires varient en fonction des praticiens, varient du simple double. Donc il y a beaucoup qui s'appellent de peur et d'ignorance dans tous ces tarifs-là. Il y a vraiment de quoi s'y perdre, croyez-moi. Bon, on utilisait les peurs et l'ignorance des patients pour pratiquer des prix déconnectés de la valeur des équipements sans que cela soit hors la loi. Bon, il est nécessaire d'encadrer ces tarifs pour protéger l'assurance sociale. En effet, il ne faut quand même pas tomber dans le piège de l'argent pour se soigner. Il faut aussi le protéger contre la propagande du gouvernement qui parle d'un 100% santé qui ne sera en vérité valable que pour les équipements bas de gamme. Cela ne résoudra pas les problèmes d'accès aux soins. Nous sommes bien là dans une logique libérale de protection sociale, avec un système qui assure un minimum de prise en charge pour les plus démunis et d'assurance privée pour le reste. Donc les mutuelles qui ont fait un bond phénoménal ces dernières années. Pour être couvert correctement, maintenant, les mutuelles, c'est approximativement 80-90 euros. Enfin, pas loin de 100 euros pour certaines mutuelles. Ce genre de système va à l'opposé de la philosophie de la sécurité sociale lors de sa création en 1945 et des 100% sécu portés donc par la CGT. Cette bataille est l'affaire de tous. Les représentants des salariés dans les CPAM, caisse primaire d'assurance maladie, et les militants doivent s'en saisir pour affirmer que ce n'est pas notre conception de la sécurité sociale qui est. Ce système aboutit à une médecine à plusieurs vitesses, où les pauvres sont soignés dans des conditions à moindre coût, pendant que certains professionnels gonflent leurs tarifs. Voilà, et nous y venons. En toute légalité. Ce débat doit irriguer la population. Nous devons convaincre qu'on peut avoir un niveau de sécurité sociale pour toutes et tous avec nos cotisations et dans le respect des professionnels. Les prix doivent correspondre au travail qu'ils exercent, pas à la solvabilité du marché. C'est la sécu qui leur permet d'exister. Ils doivent en retour respecter des règles, être payés pour leur travail et non pour une quelconque apporté du gain. Réorganiser le système de santé. Fiche numéro 2. Au début de l'émission, j'ai bien parlé de fichette, mais une pénurie des médecins, et nous y venons. Pendant près de 15 ans, le nombre de médecins en formation a été divisé par 2 pour atteindre un plancher inférieur à 4 000 diplômés par an, contre 8 000 au début des années 1980. Et là, nous reculons. L'annonce de la suppression du numerus clausus constitue un leurre, car la sélection ne se fera plus la première année, mais au cours des années suivantes, pour finalement un nombre toujours aussi limité de places. Pas plus de, en compte au total à peine 50 000. Ils sont mal répartis sur le territoire pour suppléer au manque de médecins. Une nouvelle profession, celle des infirmiers de pratique avancée, IPA, a été créée. L'urgence actuelle n'est pas de créer de nouveaux métiers, mais bien de reconnaître à leur juste niveau des qualifications. Des infirmiers avec des grilles de rémunération correspondantes dans le cadre d'un exercice pluriprofessionnel. Coordonné, c'est pourquoi la CGT refuse ces évolutions. Les grandes villes, tandis qu'ils sont désertes, les campagnes, les banlieues dans certaines zones, impossible de trouver des spécialistes, sauf ceux qui appliquent des dépassements d'horaire. Bon, cette situation limite l'accès aux soins, notamment pour les plus précaires. Les mesures incitatives proposées par les différents gouvernements depuis plus de 20 ans se sont avérées vaines. Les zones déjà déficitaires de l'époque le sont encore plus aujourd'hui. Face à cette situation, la seule solution qui a montré son efficacité est de créer des postes de médecine salariés dans les structures d'exercice collectif, dont la création doit être planifiée en fonction des besoins. Un complément comme cela a été fait pour les infirmiers depuis plusieurs années. Le conventionnement par la sécurité sociale des médecins qui souhaitent s'installer en libéral doit être conditionné à des indicateurs démographiques. Voilà. Donc, des centres de santé partout, effectivement, c'est nécessaire. Jeune médecin aspire à exercer un groupe pluriprofessionnel et être salarié ou en tout cas à déléguer à un tiers la lourde gestion administrative de leur activité et de leur structure. C'est pour cela qu'il faut encourager le développement des centres de santé pluriprofessionnels, dont la gestion peut être assurée par des établissements publics de santé, des collectivités locales, des structures coopératives ou des associations à but non lucratif. Dans ce cadre, les médecins et les autres professionnels de santé doivent être des salariés. La rémunération à l'acte, en finir avec la rémunération à l'acte. Le paiement à l'acte est un mode de fonctionnement aujourd'hui dépassé. Aujourd'hui, il empêche la coordination et la fluidité du soin des patients condamnés à auditionner les actes sans pour autant qu'ils suivent une quelconque cohérence. Ce travail de coordination essentiel aujourd'hui pour une boussole de qualité doit être effectué par défaut. À défaut, le résultat des parcours souvent de piètre qualité. Nomadisme médical, surconsommation de médicaments ayant de nombreux effets secondaires et créant de nouveaux problèmes de santé. Insatisfaction du patient, trop souvent désorienté, tout cela provoque une perte d'efficience et c'est un véritable gâchis. Les moins armés pour s'orienter, à savoir les moins éduqués et les plus pauvres, sont mal ou trop tardivement pris en compte. Question monnaie. C'est pourquoi il faut mettre en place un financement forfaitisé des structures de soins conventionnées avec la sécurité sociale, comprenant une part liée à la variation du volume d'activité. Dans ces structures, les professionnels doivent être salariés ou, s'ils le désirent, sous une forme d'autre forme, dont ils décident les critères entre eux. Réparer la fracture ville-hôpital. Historiquement, les mondes de la médecine en ville et de la médecine à l'hôpital se sont développés de manière parallèle, sans véritable coordination, voire partout en opposition. Mais la situation des services d'urgence, aujourd'hui catastrophique, a mis en lumière la nécessité d'une continuité entre la ville et l'hôpital. En 2002, Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé à l'époque, a mis fin à l'obligation pour les médecins de faire des gardes. Résultat, la fréquence des urgences hospitalières a explosé. Elle était de 22 millions de passages en 2019 contre 12 millions de passages en 2012. Cette situation était prévisible au regard des expériences étrangères du même type. Certains politiques et médecins qui sont d'ailleurs eux-mêmes les mêmes essaient de culpabiliser les patients qui viendraient pour des bobos aux urgences. Ils ont même inventé le terme de bobologie. Alors, pour ne pas aller aux urgences, il y a à la Timone, bon, à la Timone, il y a les urgences, c'est vrai, mais il y a aussi une permanence médicale, médicale générale. Donc à la Timone, dans le local des urgences, voilà. Ouvert pratiquement 24 heures sur 24. Voilà, c'est dit. Si vous avez un petit souci de santé, bien allez donc voir ce fameux local de médecin généraliste. Voilà. Il est 14h37, je vais mettre un peu de musique et je reprendrai l'émission.
Shadows, things can change by being woke. Here begins the wish. Radio Galère. Radio
Galère. Radio Galère présente Les Haragas de Marseille. Une émission animée par Arslan et Kamar. Et ça se passe tous les jeudis de 16h à 18h. Vous aurez El Moussika, El Mehboula, les reportages, El Haraga.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. Une petite erreur s'est glissée dans une fiche, c'est la fiche numéro 2. Je vais donc la reprendre, réorganiser le système de santé. J'en ai déjà parlé, mais j'ai eu un petit souci technique. Enfin, un problème de fiche. Une pénurie donc de médecins. Pendant près de 15 ans, le nombre donc de médecins en formation a été divisé par deux, comme je l'ai dit précédemment. Pour atteindre un plancher inférieur à 4000 diplômés par an, contre 8000 au début des années 1980. L'annonce de la suppression du numerus clausus constitue donc un leurre, car la sélection ne se fera plus par la première année, mais au cours des années suivantes, pour finalement un nombre toujours plus limité de places, pas plus de 9000. Si le nombre total de médecins a pu être maintenu en France ces dernières années, c'est seulement grâce à l'apport de médecins formés à l'étranger. Aujourd'hui, 15% seulement des candidats au concours de fin de première année obtiennent le droit de poursuivre leur étude. Notre pays ne manque pas de vocation, mais nombre de jeunes sont rejetés par le système et certains d'entre eux partent à l'étranger faire leur étude. Autre phénomène, l'augmentation du nombre de spécialistes exerçant en France dépasse aujourd'hui celui des généralistes. Le nombre de généralistes exerçant vraiment une activité de médecin de famille est inférieur de moitié au nombre d'inscrits au Conseil de l'Ordre. On en compte au total à peine 50 000. Ils sont mal répartis sur le territoire. Pour suppléer un manque de médecins, une nouvelle profession, celle des infirmiers de pratique avancée, IPA, a été créé. L'urgence actuelle n'est pas de créer de nouveaux métiers, mais bien de reconnaître à leur juste niveau les qualifications des infirmiers avec des grilles de rémunération correspondantes dans le cadre d'un exercice pluriprofessionnel coordonné. C'est pourquoi la CGT refuse ces évolutions vers de nouveaux métiers. Infirmier visant à pallier le programme de démographie médicale. Bon, un infirmier ne pourra jamais se substituer à un médecin. Hein? Non. À ce titre, la CGT revendique la formation d'au moins 12 000 médecins par an. De plus, il est nécessaire de former proportionnellement plus de généralistes que de spécialistes. En effet, il y a un déséquilibre sur la balance. Afin de mieux répondre aux besoins d'une population vieillissante atteinte de polypathologies, c'est-à-dire des pathologies diverses, pour laquelle l'objectif n'est plus de guérir, mais de garder le meilleur état possible, le plus longtemps possible. Bon, les déserts médicaux ne sont pas une fatalité, hein, c'est voulu. Hein. Les médecins sont de plus en plus concentrés dans les centres des grandes villes, tandis qu'ils désertent les campagnes et les banlieues. Dans certaines zones, il est impossible de trouver des spécialistes, sauf ceux qui appliquent des dépassements d'horaires. Hein. Et alors, il y en a. Cette situation limite l'accès aux soins, notamment pour les plus précaires. Les mesures incitatives proposées par les différents gouvernements depuis plus de 20 ans, et là, à mon avis, c'est beaucoup plus loin, hein. Se sont avérées vaines. Les zones déjà déficitaires à l'époque le sont. Encore plus aujourd'hui. Face à cette situation, la seule solution qui a montré son efficacité est de créer des postes de médecins salariés dans une structure d'exercice collectif, dont la création doit être planifiée en fonction des besoins, en complément comme cela a été fait pour les infirmiers depuis plusieurs années. Le conventionnement par la sécurité sociale des médecins qui souhaitent s'installer en libéral doit être conditionné à des indicateurs démographiques. Donc, pour finir, notre système de santé a été un des meilleurs du monde, selon le meilleur, sinon le meilleur. Il a longtemps fait ses preuves et a répondu aux grandes parties aux besoins de la population au fil des réformes de ces 30 dernières années. La dégradation est considérable, elle est palpable tant pour les usagers que pour les professionnels. La CGT n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme et de se battre avec les personnels contre la politique qui était menée. Il n'y a eu malheureusement aucune politique prévisionnelle d'adaptation et de prise en charge par la Sécu, des nouveaux besoins et des nouvelles demandes liées à l'évolution des technologies. Les difficultés d'accès aux soins se multiplient en raison d'une part de l'éloignement des structures et d'autre part de la fermeture de nombreux services, du manque de professionnels et du fait de l'allongement des délais de rendez-vous et de prise en charge. S'ajoute à cela le reste à charge dont une grande partie de la population ne peut abonder ou alors au prix de grands sacrifices. Petit à petit, une médecine et des soins à plusieurs vitesses se mettent en place. Petit à petit, on en vient à soigner selon ses revenus et non pas en fonction de ses besoins. C'est une remise en cause fondamentale sur le fond de la notion qui a prévalu à la création de notre sécurité sociale. Sous prétexte d'efficience, des milliers de lits ou d'hôpitaux ont été fermés, les services d'urgence sont saturés et les déserts médicaux ne se résorbent pas, malgré certaines dispositions prises par le gouvernement. Quant au personnel de la santé, ils sont épuisés, mis alors en avant lors de la crise liée à l'épidémie de Covid-19. L'euphorie aura été de courte durée avec une Ségur de la santé remplie de fausses illusions, tant sur les salaires que sur les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins. Bon, la lutte continue et notre réflexion aussi. Nous devons nous atteler à partager largement nos propositions d'une Sécu à 100% comme unique organisme collecteur et payeur, avec des ressources provenant des richesses produites dans notre pays, par le biais des cotisations sociales. Nous devons nous atteler à convaincre qu'une autre société sociale est possible. Notre constance et notre combativité arriveront à faire la différence dans les prochaines années, qui, elles, seront décisives. Oui, travaillons militants pour le présent et pour l'avenir, notamment à partir de se livrer pour gagner avec tous les militants, les plus largement avec tous les salariés, les moyens de poursuivre l'enjeu de notre système de sécurité sociale à partir des enjeux sociaux et économiques donc d'aujourd'hui. Voilà, et j'en resterai là pour la sécurité sociale. Il est 14h48, je vais mettre un peu de musique et je vous reprends.
Yeah, man, Rasta, one love. comme Jésus au 36e gong. Tu résonnes à jamais aux oreilles rebelles. Rasta, yeah, Rasta. De partout sur la terre, tel le Master Blaster. Seul star du tiers monde, t'as soulevé le monde, Mr. Marley.
Mr. Marley, respect.
Respect, Mr. Marley.
Repose en paix, Nesta. Hasta siempre.
Mr. Marley.
Mr. Marley, respect.
Respect, Mr. Marley.
Repose en paix, Nesta. Hasta siempre, Rasta.
Hey, Mr. Music. T'as chanté pour nos droits, t'as combattu les lois,
Mister Music.
Et Mr. Music, t'as défendu l'Afrique,
Afrique.
Et Mr. Kwanja, tu as approché Dja,
t'as chanté l'air folle,
les deux feuilles qui se collent.
Marijuana, 500 milliards.
Les deux feuilles qui se collent.
Marijuana, 500 milliards. Compe Ernesta Marley, respect.
Respect, Mr. Marley.
Repose en paix, Nesta. Hasta siempre, Rasta.
Mr. Marley.
Compe Ernesta Marley, respect.
Respect, Mr. Marley.
Repose en paix, Nesta. Hasta siempre, Rasta. T'es notre prophète, notre droit d'espérer dans ce monde trop bête. Et vibration, t'es notre prophète, notre droit d'espérer dans ce monde trop bête. D'en bas, t'as élu roi des rois. Le peuple d'en bas, t'as élu roi des rois. Yeman, yeah,
Mr. Marley. Yeman,
yeah,
Mr. Music. Mr. Music, Yeman, yeah. Rasta.
Ben, après la radio number one sur le blanc, Radio Galère vous emmène dans le vert. 88.4 pour toi et toi et toi.
Radio Galère, 88.4 FM,
04 91 08 28 10.
Cauchemar, j'ai v'là l'entourage, j'suis pas sans courage. Ça t'en boucane, t'es déjà con, ça fait rembourrage. Non, plus de pansement, maintenant j'cotérise. J'te prosélyte pour prier dans un gros zénith. Ça me guette comme si mon Y censure mon micro. Ça fait beaucoup d'itrait, c'est ce que tu m'as dit gros. Oh, Père Noël, j'ai été sage. Donc, s'te plaît, laisse-moi bâtir des disques à mon image. Con. Prends ma mère, essuie les larmes sur son visage. Moi, quand je viens de là où on voit des fleurs qui poussent sur les virages. Quand heure est-il? Je vois flou avec mes deux rétines. Je suis grand, mon père, à mon âge, pleurait-il. Encore une mauvaise chanson pour faire croire que je suis un bon enfant. Je me sens petit comme ma ville. Je béflant comme ma tige. Aime ton acide comme ma ville. Leur esprit ternit mes pouvoirs. Les accords remplissent mes mouchoirs.
Voilà, je reprends le micro pour quelques minutes. Je voulais faire un petit rapport sur Encourage Vic, mais je manque malheureusement. Enfin, comme largement de temps, je me suis un peu trop étalé donc, sur la sécurité sociale. Je m'en excuse auprès de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il est quand même temps de rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt sur Galère 88.4 en FM. Bon après-midi à toutes et à tous. Allez, un peu de musique et je lance le générique. Au revoir. Et merci de votre écoute.